Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. C'est en 1997 que Henri Amoroux publia « Pour en finir avec Vichy, les oublis de la mémoire ». Il s'agissait d'un premier tome consacré à l'année 1940 qui n'était nullement un plaidoyer pour Vichy, mais simplement une œuvre d'historien, une œuvre d'histoire par opposition à la mémoire qui, elle, est bien sélective. Il s'agissait ainsi de rappeler des faits sur une période sujette à des jugements par trop manichéens. Cet ouvrage, pour en finir avec Vichy, s'inscrivait aussi comme le sommet de plus de 40 années de recherche consacrées à une des périodes les plus passionnantes et les plus passionnées de notre histoire de France. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le deuxième tome de cet ouvrage, pour en finir avec Vichy, les racines des passions, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. La première partie de cette émission est disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Elle est consacrée au rapport de Gaulle-Pétain à leur parcours respectif. Nous y avons vu également et analysé la fameuse entrevue de Montoire. Dans cette deuxième émission, nous allons davantage nous intéresser aux passions. Passions de l'Église catholique, passions des Antilles, notamment des Antijuifs. Mais nous verrons également la complexité des rapports entre la France libre et la France de Vichy. Bref, nous vous proposons encore une fois de sortir du manichéisme. Henri Amoroux, bonjour.
Bonjour.
La troisième partie de votre ouvrage débute par l'hommage de Maurice Schumann aux prêtres français. L'Église de France, dites-vous, est effrayée par le communisme. Elle n'est absolument pas séduite par le nazisme. On peut certes parler d'une collaboration de l'Église au régime de Vichy, mais même cette collaboration est une collaboration, dites-vous, qui a évolué.
Mais bien sûr. Si on ne comprend pas l'évolution, c'est pas compliqué l'histoire. Vous avez écrit 4 lignes, une ligne par année, et vous avez toute l'histoire. Seulement, c'est pas comme ça que les choses se passent. L'Église a évolué considérablement, et si Maurice Schumann rend hommage à l'Église, c'est l'Église de 1944, c'est pas l'Église de 1940. L'Église de 1944, qui sera d'ailleurs pas très courageuse en 1945, car aucun des prélats, aucun de ceux qui avaient balancé l'encensoir sous le nez du maréchal Pétain, n'est venu témoigner au procès. 1940, le maréchal Pétain n'est pas du tout un homme profondément religieux. C'était un catholique de conviction, de naissance, d'éducation, d'habitude, mais pas tellement religieux. Le général de Gaulle, au contraire, l'impression est profondément, enfin, je crois, profondément croyant. Le maréchal Pétain est croyant d'habitude. Et en 40, l'Église, qui avait une influence qu'elle n'a pas aujourd'hui, l'Église catholique avait une influence considérable, et d'autant plus considérable qu'il n'y avait plus d'adversaires. Et que, bon, les églises étaient pleines, comme après toutes les défaites. Car toutes les défaites renvoient à des sentiments religieux. Toutes les défaites renvoient à une foi abandonnée, ou à une foi même inexistante, dans tous les pays du monde.
Comme en 1870.
Mais en 70, en Russie, après les premières défaites de l'armée soviétique, Staline libère des camps du goulag, libère du goulag les popes, et les envoie prêcher la défense de la Sainte Russie. Alors, les églises sont pleines, et en 1940, en mai 40, en juin 40, on va sortir, on va faire des processions qui sauver la France au nom du Sacré-Cœur, qui vont être suivies par un gouvernement où il y avait beaucoup plus d'athées de francs-maçons que de catholiques, mais beaucoup plus. Mais ils se disent, après tout, si ça fait pas de mal, ça peut faire du bien. C'est un problème de psychologie. La psychologie des fous, la psychologie des masses. La défaite. C'est ça le problème essentiel. Il n'y a plus d'opposition. C'est un pouvoir totalitaire, total, qui n'admet pas l'opposition, et ça met au pouvoir des gens qui étaient des catholiques, essentiellement. Des hommes qui étaient catholiques et l'Église, et qui vont offrir à l'Église une occasion extraordinaire de revanche sur quoi ? Sur la période 1876 et la suite. Quand j'ai mis mon titre « Les racines des passions », c'est à ces passions que je pensais, à ces passions religieuses et anti-religieuses qui ont joué un rôle considérable. Il faut savoir que, évidemment, nous avons célébré, fêté, et l'Académie des sciences morales et politiques s'est associée largement, il y a même été associé d'une façon très importante, le centenaire de la loi de 1905. Aujourd'hui, les passions sont apaisées en ce qui concerne cette loi, qui a d'ailleurs été amendée, améliorée, changée au fil des années. Mais ce n'est pas vrai. En 1940, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Parce que, en 1876, la victoire de la gauche, le départ du maréchal MacMahon, la victoire de la gauche radicale socialiste et franc-maçonne, fait que, de 1876 à 1914, pas un seul ministre ne sera catholique. Dans une France où, si l'on prend la population et pas simplement les hommes qui étaient les seuls à voter, je le rappelle au passage, puisque les femmes ne pourront voter qu'en 1945, mais si on prend les hommes et les femmes, c'est la population française, était majoritairement catholique. Vous avez, parce que c'est le problème, vous le savez bien, vous êtes historien, du balancier, des chocs en retour, l'Église catholique en ayant trop fait, ayant été l'Église du pouvoir, puis la Révolution, puis Napoléon venant mettre à son service, puis les choses. Mais bref, c'était l'Église du pouvoir et sous Napoléon III, et même après en 1870, 71, 72, c'est l'Église qui est au service du pouvoir. Toute action amène une réaction, et la réaction va être très vive, très grande, très vive. Donc, vous avez tous des hommes qui s'appellent Jules Ferry, qui s'appellent Combes, qui s'appellent Jules Simon. Aujourd'hui, quand les gosses vont au lycée Jules Ferry, ils savent même pas ce qu'a fait Jules Ferry. Ils savent pas que cet homme qui, par ailleurs, a beaucoup fait pour l'école laïque et obligatoire, naturellement, que Combes, c'était des gens qui tenaient un discours d'une violence dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Je dois dire, car il faut toujours être honnête, l'objectivité n'existe pas, la vérité est inatteignable, mais l'honnêteté peut exister, que les catholiques en disaient autant, et que c'était un combat acharné, mais c'est les radicaux, francs-maçons, qui triomphent et qui font toutes les lois, qui, pour posséder l'Église, et pour posséder l'école, l'éducation, il faut en chasser les curés. Depuis très longtemps, c'était les curés qui avaient l'éducation, comme ils avaient d'ailleurs les hôpitaux, les hospices. Et il faut chasser tous ces gens-là et chasser les congrégations. Et vous aurez, entre 1900, 1876, 1880, 1990, 1900, 1905, des choses dont les hommes de 1940 se souviennent simplement parce qu'ils sont nés dans un temps où ils pouvaient se souvenir.
Vous comparez l'émotion des expulsions des églises, des congrégations, avec l'émotion en 1996 de l'église Saint-Bernard.
Je la compare, attendez, je la compare avec une expulsion. Oui. Il y avait donc à l'église Saint-Bernard en 96.
En 1996.
Oui, en 1996, pardon, et pas en 1896, il y avait 300 Maliens que le gouvernement d'époque voulait expulser, et ça a fait, j'ai repris les pages de Libération pour citer des exemples, il faut toujours citer des exemples, combien de pages en Libération? Je crois 18 ou 19 pages avec 6 premières pages en une semaine. Une expulsion qui n'a pas eu lieu, mais les portes de l'église forcées par les forces de l'ordre qui ont fracturé les portes, et tout ça a été repris par les radios, les télévisions, les journaux, etc. etc. Combien y a-t-il eu de ces Maliens? Je suis sûr qu'il n'y en a pas 30 qui sont partis. Combien y a-t-il eu d'expulsions de congrégationnistes, de religieuses? Il y en a eu 9000 qui sont partis, qui ont dû partir. Et après, en 1905, combien y a-t-il eu d'inventaire des églises en 1906, puisque le pape demande aux catholiques de ne pas accepter ce que les lois de 1905 qui disaient les biens de l'église, on les donnera à des cultuels, des associations formées par des catholiques. Ah, aujourd'hui, ça s'appelle les associations diocésaines. Ils refusent, donc ça va à l'État. Donc il faut faire un inventaire. Je posais la question souvent, j'ai dit « Combien y a-t-il eu d'inventaire en 1906 ?» On me dit quelquefois, si les gens généreux me disent 2000, 3000, il y en a eu 63 800, plus de 63 000. Évidemment, il y en a eu 60 000 qui sont passés sans incident. Mais il y en a eu qui ont provoqué des incidents terribles. Il y en a eu qui ont entraîné la mort d'un homme dans le Nord et la chute du gouvernement Rouvier, qui était remplacé par le gouvernement Sarrien, lui-même prédécesseur d'un gouvernement Clémenceau. Mais vous aviez dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, vous aviez des paysans qui arrivaient, qui mettaient un ours à droite de la porte de l'église, un ours à gauche, et l'agent du fisc, parce que c'était l'agent du fisc qui était chargé de faire des inventaires, et l'agent du fisc n'est généralement pas l'homme plus, c'est à tort d'ailleurs, parce que c'est un fonctionnaire, il fait son boulot, n'est pas l'homme le plus aimé du gouvernement, du village, de la petite ville, c'est lui qui venait recenser. Et lorsqu'il fallait toucher au tabernacle, c'est des drames épouvantables. J'ai des inventaires chez moi, j'ai des listes d'inventaires. Oh, tout y passe, et c'est normal. Un plumeau, un franc. Le plumeau, je vous dis le prix du plumeau. C'était un franc en 1906. Alors les tableaux étaient estimés, truc comme ça. Bon, mais généralement ça se passe bien, mais dans beaucoup de cas, certains cas, ça se passe très mal. Et pas simplement en Vendée, mais dans les départements. Le roi d'Angleterre vient, il succède à la reine Victoria qui s'était prolongée. Et puis, il vient en France. Alors, Édouard était venu en France pour faire des galipettes avant, mais il était prince de Galles. Il vient en France comme roi. Vous prenez l'Illustration. L'Illustration, c'était le journal vraiment, c'était le journal illustré, très bien fait, d'ailleurs remarquablement fait, et qui était lu par tous les gens qui avaient un minimum de culture et qui s'intéressaient à la vie politique, mondaine, littéraire, artistique, etc., etc. Quelle est la double page? C'est pas la visite du roi d'Angleterre. C'est l'expulsion des Chartreux, de la Grande Chartreuse. Et vous voyez, sur la double page, une photo, parce que la photo existait, une photo, où on voit des moines, ils étaient 27 les Chartreux, en prière, ils étaient restés en prière, la foule des paysans était descendue de la montagne, pourquoi? Parce qu'ils vivaient des Chartreux, ils travaillaient avec les Chartreux, ils les connaissaient. Bon, et puis, il y a des soldats. Il y avait des fantassins, il y avait des gendarmes, il y avait des sapeurs mineurs pour forcer les portes. Et les moines attendent, là, ils sont là dans leur chapelle, et on vient les tirer. Et on les voit, le dessin les représente, tenus à droite et tenus bras droite et bras gauche, chacun par deux gendarmes. J'aime autant vous dire que les gens n'ont pas oublié ça.
Donc 1940 est vraiment une revanche.
Mais naturellement, c'est une revanche. Vous prenez les bulletins diocésains. Je suis allé il y a longtemps, quand j'écrivais La vie des Français sous l'occupation, il y a longtemps, je suis allé rechercher à Versailles où il se trouve les bulletins diocésiens de 1940-41. Il n'y a rien du tout contre les Juifs. J'ai été le premier à ouvrir la ficelle qui était sèche, qui partait en poussière presque. Il n'y a rien contre les Juifs. En revanche, contre la maçonnerie, mais l'hommage rendu au maréchal Pétain, les applaudissements, les Saint-Philippe, mon Dieu, les coups d'encensoir, les déclarations extraordinaires, c'était l'entrée à Jérusalem. C'était uniquement parce que, et d'ailleurs c'est écrit, puis j'ai reproduit des textes, Philippe Pétain, le maréchal Pétain, avait supprimé, et avait toutes ces lois anti-congrégationnistes, favorisé l'école libre, et également, il y avait donc, il a accepté, mais il était pour le retour des congrégations. Il y a aussi autre chose. Alors on parle évidemment avec raison beaucoup de l'affaire Dreyfus, mais on parle très peu de l'affaire des fils. L'affaire des fils, qui est également engloutie dans la mémoire historique par des historiens qui ne font pas leur travail. Car si vous parlez d'une chose, il faut parler d'autre chose également. Parlez de tout ce qui a eu une influence et une importance à l'époque dont vous parlez. Et ne faites pas l'impasse. Et ne gardez pas une chose parce que ça vous fait plaisir de justifier vos positions d'aujourd'hui à travers l'histoire d'hier.
Et l'affaire des fiches.
Qu'est-ce que c'est que l'affaire des fiches? L'affaire des fiches, c'est la mise en fiche par le général André, qui était ministre de la guerre de Combes, de toute l'armée française, de tous les officiers de l'armée française. Avec, pour résultat, il avait deux fichiers. Un qui s'appelait Corinthe et l'autre Carthage. Corinthe, c'est la ville des purs, des gens admirables, etc. etc. Et Carthage, bon, vous connaissez la fameuse formule de l'Indaïs Cardojo. Bon, Carthage, c'était la ville que les Romains voulaient détruire, qu'il fallait détruire. C'était la ville qu'il fallait détruire. À Carthage, c'était les mauvais. Souvent comme ça, le manichéisme, vous avez les bons et les mauvais. Ça simplifie. Alors les mauvais, ben, il fallait les retarder dans leur avancement.
Parce qu'ils étaient catholiques.
Parce qu'ils allaient à la messe. Mmh. Et alors, comment pouvait-on le savoir? On le sait. Le général André, d'abord, a des renseignements personnels, des amitiés, des choses, qui n'étaient pas franc-maçon, lui. Et après, on le sait, lorsque la franc-maçonnerie vient proposer au général André de l'aider dans ce travail d'épuration. Il est vrai que la majorité des officiers étaient catholiques, il est vrai qu'il y en avait beaucoup qui étaient monarchistes, mais au service de la République. Ils vont pas trahir, ils vont servir la République. Mais ils sont de tradition monarchiste, d'éducation monarchiste. Et donc, on va retarder les gens dans leur avancement. Et l'histoire ne se serait pas sue s'il n'y avait pas eu un traître, une trahison, si un nommé Bideguin, qui était au Grand-Orient, n'avait pas un jour apporté à des journalistes d'opposition, de droite, à des hommes politiques, plus exactement de droite, Guillaume de Villeneuve, n'avait pas apporté des fiches en leur vendant, en leur disant « voilà ce que nous faisons ». À ce moment-là, évidemment, la presse s'en est emparée. Il y a eu interpellation. Le général André a failli pas d'abord nier, et puis il a donné sa démission et Combes est parti là-dessus. Mais l'affaire des fiches, vous comprenez bien qu'il y avait des gens qui étaient vivants en 40, qui avaient été fichés, évidemment, comme capitaine.
Pétain a été fiché,
alors que je vous jure, c'était pas un pilier de sacristie, mais à des sentiments religieux. Oui. Alors, ça allait très loin. Ça allait très loin, parce qu'on donnait les sentiments aussi de la femme, des frères, si les enfants allaient ou n'allaient pas dans une école catholique, ça allait très loin. Et ça a eu pour résultat l'autre Joffre, qui était franc-maçon, et qui avait un second Castelnau, qui était pratiquement le jésuite, qui était archi-catholique, je ne vais pas dire archi-catholique, très catholique, et Joffre a dû remplacer des généraux qui n'avaient pas tenu leur rôle, qui n'avaient pas tenu leur poste et qui s'étaient effondrés en 1914. Et lorsqu'il a nommé 18 généraux, pas des généraux de division, mais des généraux d'armée, des généraux... il en a nommé 18, il y en avait 14 sur les 18, 14, qui avaient été retardés dans leur avancement par l'affaire des fiches. C'est dramatique. Et alors, vous pouvez pas ne pas faire que dans un moment manichéen, car 40 est manichéen également, eh ben tout ça, ça fait drame.
Alors justement, la franc-maçonnerie va voter, enfin en tous les cas 59 députés et 34 sénateurs francs-maçons vont voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est ce que je vous propose de voir Henri Amoroux dans une petite seconde. À tout de suite.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amoroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Amoroux, auteur du livre « Pour en finir avec Vichy », il s'agit du deuxième tome. Le premier est paru en 1997, « Les oublis de la mémoire ». Le deuxième vient de paraître, « Les racines des passions », aux éditions Robert Laffont. Alors, nous avons évoqué l'Église et le sort de l'Église, nous parlons même de revanche de l'Église sur la franc-maçonnerie. Pourtant, la franc-maçonnerie, en tous les cas, les élus francs-maçons, 59 députés, 34 sénateurs, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et les premières lois de répression, finalement, elles touchent ces francs-maçons.
Oui, mais l'idiotie de Vichy, la stupidité, et là, c'est que il y a des hommes qui sont des hommes de réaction et qui veulent prendre des revanches. Bon, tous les francs-maçons étaient des Français aussi honnêtes que les autres, et qui ne demandaient pas du tout, qui n'étaient pas contre le maréchal Pétain, ils étaient pour l'armistice, ils étaient pour la fin des hostilités. Vichy s'est créé, artificiellement, s'est créé beaucoup d'ennemis par réaction, parce qu'il y avait des hommes qui avaient été débattus. Il faut rappeler le Front populaire. Alors qu'un pouvoir totalitaire, car Vichy est un pouvoir totalitaire, ne devrait pas faire des procès à ses adversaires. Et des hommes qui ont été battus, comme Alibert, qui était ministre de la Justice, et qui avait, dont le fils me dira, bien plus tard évidemment, c'était un légiste du Moyen-Âge. Mais c'est dramatique, un légiste du Moyen-Âge en 1940, évidemment. Alors, bon, c'était des gens qui croyaient, qui avaient une volonté de revanche, et beaucoup dans l'Église avaient cette volonté de revanche en ce qui concerne les francs-maçons. Alors, vous avez également des journaux, et c'est qui cela, où il faut faire la distinction entre Vichy et Paris, pour les francs-maçons, comme il faudra le faire également pour les juifs, encore que pour Vichy, la responsabilité de Vichy est indiscutable, et pour les juifs et pour les francs-maçons. Ceux qui attisent le feu, ceux qui remuent les passions, ils sont beaucoup plus à Paris qu'à Vichy. Alors, à Paris, des journaux comme ici Paris, même c'est pas un mot académique, mais il faudra le faire entrer dans le dictionnaire, comme au pilori, n'est-ce pas, disent, donnent les noms des francs-maçons. D'ailleurs, Vichy fait que les noms des francs-maçons d'un certain grade vont être inscrits au journal officiel. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est gardé secret, puisque c'est secret, tout le monde le sait, y compris leur femme qui doit l'apprendre, d'ailleurs, par la circonstance. Mais dans une petite ville, nous sommes aujourd'hui en 2006, mais en 1940, dans une petite ville, il y avait beaucoup de petites villes en France où la circulation des informations était réduite. Donc on sait que le pharmacien est franc-maçon, que l'enseignant et l'instituteur est franc-maçon, que le médecin est franc-maçon. Tout ça, ça crée un terreau sur lequel les haines et les divisions vont aller prospérer. Et c'est tragique, ça, c'est tragique.
Alors, deuxième haine, c'est l'antisémitisme, nous en parlions. Mais cet antisémitisme, vous le mentionnez bien dans votre livre, il existe avant 1940. Vous citez notamment les travaux de Pierre-Jean Descotes et de François Hunin sur la République xénophobe.
Oui, mais ça, c'était pas là. Oui, mais c'est leur livre. Et sur la République xénophobe qui ne visait pas uniquement les juifs, non. Ça visait les étrangers.
Les étrangers de manière générale.
Notamment, vous savez, les Espagnols. J'ai passé l'autre jour, j'ai rencontré une dame dont le grand-père était républicain espagnol et qui est venu donc en 39, qui est arrivé avec tous les derniers qui arrivaient, qui fuyaient l'Espagne républicaine, ceux qui restaient d'Espagne républicaine et qui sont venus en France et qui ont été évidemment très mal logés, très mal nourris dans des camps qui venaient de quitter des camps, non pas de concentration, mais enfin concentration est un mot qui a pris l'allure et le sens qu'on veut, mais dans lequel ils étaient mal. Et évidemment, il y en avait 300 000 ou 250 000 qui étaient arrivés comme ça. Alors on les voyait arriver, la guerre pointée à l'horizon, puisque la guerre, 6 mois plus tard, la France était... Il y avait toute une politique hostile aux étrangers et notamment aux étrangers juifs, avec un journal qui a eu une grande influence. Parce que qui est au pouvoir en 1940? Les lecteurs de Candide et les lecteurs de Je suis partout. Alors Candide, je ne sais pas si ça dit, bien entendu, aux gens de ma génération. Je suis partout, un peu plus peut-être, parce que ça a été plus connu. Candide a publié en zone non occupée, et Je suis partout en zone occupée. Il n'y avait pas d'ailleurs. Les journaux de zone occupée, il faut le savoir, étaient interdits en zone non occupée. Je suis partout était un attiseur de passion bien avant 40, avec un écrivain qui après a pris un tournant en 39, c'était Pierre Gaxotte, grand écrivain par ailleurs, grand historien par ailleurs, mais Gaxotte était le créateur de Je suis partout, et puis il a abandonné au bon moment. Mais il y avait des gens comme Brasillac, et si Brasillac est fusillé? Si Brasillac est fusillé, ça cause des articles qu'il écrit dans Je suis partout. Et dans ces articles, c'est d'une violence inouïe. Quand sa haine des juifs, sa dénonciation des juifs, n'est-ce pas, est telle que c'est une entreprise de dénonciation. Alors avant la guerre, il y avait eu avant la guerre un décret loi qui s'appelait le décret Marchandot du nom du maire de Reims, franc-maçon, et qui était fait pour protéger les francs-maçons et les juifs comme il y a aujourd'hui des lois. Alors on ne peut plus parler des juifs. 39, on ne peut plus les attaquer en principe. Et Rabaté écrit un article dans Je suis partout, la première page, qui s'appelle, un article qui couvre toute la première page, qui s'appelle La question singe. Hein, question singe, c'est pour la question juive. Et dans tous les articles, chaque fois que le mot juif aurait dû être employé, vous avez le mot singe. Ça a eu un succès considérable, il a fallu que je suis partout face à un nouveau tirage, ça alimentait des passions, et le gouvernement du Front Populaire avec Léon Blum, c'était le premier juif, et Xavier Vallat, qui sera après le premier commissaire aux affaires juives de Vichy, Xavier Vallat était intervenu, il était député, héros de 14-18, ampute blessé très grièvement, et il va en séance, lorsque Léon Blum est élu et devient président du conseil, lui dire « c'est la première fois que dans notre vieux pays », il sera interrompu par Édouard Herriot, qui est président de la Chambre des députés, qui lui dit « Monsieur Vallat, contrôlez ce que vous allez dire ». Et il dit « est dirigé par un juif ». Et alors, ça fait évidemment, les juifs, vous avez, sont dénoncés comme étant les maîtres de la presse, les maîtres de l'information, les maîtres de la finance, etc. Vous avez dans Je suis partout, bien avant la guerre, la liste des avocats juifs de Paris, ou la liste des médecins juifs, vous comprenez? Donc, il y a, si j'ose dire, une étoile jaune avant l'étoile jaune. Et Vichy, à la fois sous la pression des Allemands et sans pression des Allemands, et Vichy aurait pu véritablement ne pas faire ça, et ce que Vichy a fait de plus dramatique et scandaleux, je vous le dirai tout à l'heure, Vichy va faire ses lois juives, qui sont des lois, on dit oui, on ne veut pas de juifs dans l'administration, on en avait trop, on va donc faire un numerus clausus, etc. On ne fait pas ça sous la pression de l'ennemi. On ne fait pas ça. Si l'ennemi vous impose quelque chose, on proteste. Il vous l'impose, vous le faites peut-être, mais en tout cas, ne le faites pas de votre plein gré. C'est le problème des passions, c'est le problème des revanches, c'est le problème de la revanche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « La revanche des passions ».
Alors, justement,
les racines des passions.
Oui, il y avait un autre titre auquel vous pensiez, il s'agit d'une interview que vous aviez fait à l'époque au Figaro Magazine, vous pensiez, en 99, vous pensiez appeler ce livre « Pétain de Gaulle, un combat pour les âmes ». Et c'est précisément le titre de votre dernière partie sur consacrée à l'opinion française, et je dirais même aux opinions françaises, car l'opinion française est, encore une fois, multiple.
Elle est très multiple, même. Il faut savoir que, vous savez, j'étais à Lyon il y a quelques jours, donc il y avait une manifestation du Figaro Magazine, un salon du livre du Figaro Magazine. Nous avons signé, des confrères et moi, à l'hôtel de ville qui est sur la place des Terreaux. Très vaste, très grand, etc. On peut y mettre beaucoup de monde, la place des Terreaux. Le maréchal Pétain est venu en 1940, c'était plein. Le général de Gaulle est venu en 1944, c'était plein. Vous prenez le journal Le Progrès, qui a reparu à la Libération parce qu'il s'était sabordé en 1942 après l'entrée des Allemands en zone non occupée. Ce sont les mêmes mots, la même foule, les mêmes mots, la même description par le journaliste, qui peut-être d'ailleurs le même journaliste, des ovations à deux hommes différents. Le peuple français évolue. Et vous avez des pétainistes. Le second volume de ma... Le deuxième volume de la série La vie des Français sous l'occupation s'appelle 40, est titré 40 millions de pétainistes. Il doit être à 240 ou 250 000 exemplaires. J'ai reçu 3 lettres de protestation, pas 4, hein. 3 lettres qui commençaient comme, dont 2 commençaient comme ça. Monsieur, je n'ai pas lu votre livre, mais j'ai écrit à ces deux braves non-lecteurs. Je leur ai envoyé mon livre pour qu'ils me lisent et qu'après ils fondent leur jugement. Les Français de 40 étaient pétainistes. Ils étaient pétainistes. Pas pour adhérer à une logique. Pas pour adhérer à un parti politique, mais parce qu'il n'y avait plus rien et que tout s'était effondré. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais ils étaient pétainistes, surtout en zone libre, surtout beaucoup plus qu'en zone non occupée. Qu'en zone occupée, parce qu'en zone occupée, il y avait les Allemands tous les jours, on les voyait.
D'autant plus que le nom de Gaulle était ignoré.
Le nom de Gaulle était ignoré. J'ai cité des exemples, j'avais travaillé là-dessus. Il faudra attendre 1942 pour les trouver dans les journaux résistants. Il était connu par la radio, mais la radio était brouillée. Donc il y a une évolution, il y a des évolutions. Et les Français ont été pétainistes, puis ils ont été pétino-gaullistes, puis ils ont été gaullistes. Mais le général de Gaulle ne s'y trompe pas tellement. Lorsqu'il est en 69, et le référendum est contre lui, hein, et qu'il va se retirer, il dit « j'ai été battu par les vichistes », ce qui n'est pas exact, parce qu'il y a beaucoup de communistes qui n'étaient pas vichistes, qui ont voté contre lui. Les Français ont évolué. Je voudrais dire tout de même, on a parlé de l'Église, je vous ai dit qu'elle avait changé elle aussi. Elle a changé notamment à partir de septembre 1942, lorsque Vichy a fait quelque chose de scandaleux. La zone non occupée n'est pas encore occupée, elle sera occupée le 11 novembre 1942, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, et à ce moment-là, Hitler fait occuper la zone libre. Les Allemands qui nous avaient envoyés, avaient envoyé en zone libre des milliers de juifs de Bade, des juifs badois, veulent les reprendre, et puis en reprendre d'autres aussi, et demandent à Vichy d'arrêter et de leur donner par-delà la ligne de démarcation 10 000 juifs. C'est affreux de faire ça. Bien entendu, on ne sait pas ce qui se passera, puisque ce n'était pas encore décidé, les lois d'extermination n'étaient pas encore tout à fait décidées, elles sont décidées un peu plus tard, et d'ailleurs que sur les camps de concentration, quel qu'il soit, le général de Gaulle n'a jamais dit un mot. Mais tout de même, d'abord, quand vous êtes au pouvoir, votre premier devoir, c'est d'essayer de vous renseigner pourquoi on vous demande ces gens, qu'est-ce qu'on va en faire, et ensuite on les arrête, et là, l'Église intervient. Mais elle intervient par la voix de Mgr Saliège, du cardinal Gérier, de Mgr Delay, qui était l'archevêque de Marseille, et dans le silence total, car c'était le silence total à l'époque, personne ne disait rien, sauf la propagande, naturellement, le Mgr Saliège, qui ne parlait pas, il avait des difficultés de locution, mais il écrivait, fait lire une lettre pastorale dans toutes les églises de son diocèse. La lettre pastorale était lue en chaire. Aujourd'hui, les curés parlent au niveau des fidèles, et bon, ils font des commentaires. S'ils lisaient une lettre pastorale, il y en a certains qui feraient des commentaires. Là, la lettre devait être lue sans commentaire. Vous lisiez la lettre pastorale en chaire, vous redescendiez. Cette lettre pastorale se comportait, dénonçait les arrestations des juifs et des enfants, et disait cette phrase qui est essentielle. Aujourd'hui, elle paraît d'une banalité extraordinaire. Il disait, Mgr Saliège disait, ces juifs sont des hommes, ces juifs sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et écrire ce sont des hommes et ce sont des femmes, c'est révolutionnaire dans le silence. Quand le silence est total, un peu de bruit fait beaucoup de bruit, je vous assure. Et ça a changé, ça a fait changer des gens. Et ça a eu une influence sur Vichy, qui a fait du mal, naturellement, parce que toutes ces lois étaient des lois où vous restreignez la liberté des gens, ils n'ont plus de travail. Puis après, ils peuvent plus, alors c'est les Allemands, après ils peuvent plus circuler. Après, les Allemands leur mettent une étoile jaune, car ce sont les Allemands qui ont imposé l'étoile jaune, et non pas comme certains qui sont dans des postes pourtant importants disent que c'est Vichy, ce qui est faux. C'est les Allemands qui ont imposé l'étoile jaune, qui n'a jamais été imposée en zone non occupée. C'est-à-dire, vous êtes juif, vous passez de la zone libre, la zone occupée à la zone libre, vous pouvez enlever l'étoile jaune en juillet 1942. Et après, quand la zone non occupée est occupée, vous n'avez pas l'étoile jaune. Alors, sur votre carte d'alimentation, sur vos papiers d'identité, oui, il y a un tampon juif, mais vous n'avez pas l'étoile, ce qui est très important. Vichy va quand même prendre des mesures, n'est-ce pas, qui vont être contraignantes et qui vont accompagner les mesures allemandes, qui coïncident quelquefois, qui anticipent. Et tout ça, véritablement, par une entreprise de revanche de certains qui voyaient dans les juifs les ennemis qu'il fallait non pas tuer, encore que dans la presse de zones occupées. Le journal, l'hebdomadaire dont j'ai parlé dans une autre émission, dont j'ai dit qu'il était un journal abominable au pilori, ouvre en juillet ou 10 août 1940, mais si je me trompe, je ne me trompe pas de 15 jours, ouvre un concours C'était un concours réservé aux femmes. Je vais vous dire quels étaient les prix. Premier prix, 3 paires de bas de soie, parce qu'il n'y avait pas de bas de soie à l'époque. On n'en trouvait pas. Deuxième prix, 2 paires de bas de soie. Et troisième prix, une paire de bas de soie. C'était réservé aux femmes. Et la question qu'on leur posait, c'était où faut-il les mettre ? Ils, c'était les juifs. Et la dame qui va gagner les 3 paires de bas de soie, dont, par charité, je n'ai pas dit le nom, parce que je pense toujours qu'il y a des enfants, des petits-enfants, avait dit il faut les stériliser. Et il y en avait l'autre qui disait il faut les mettre dans des mines. Puis il y avait des mines à l'époque. Le mot mine, mineur, n'a plus grand sens aujourd'hui. Mais il y avait des mines de charbon. Il faut les mettre dans des mines de charbon gardées par des Sénégalais. C'était extravagant. Et donc il y avait cette haine qui a été la revanche de 1936, la revanche sur le Front populaire, et puis la revanche, les banquiers, les enseignants, les intellectuels, une volonté de revanche, parce que ceux qui se trouvaient au pouvoir étaient, c'est essentiel de le comprendre, étaient depuis longtemps des lecteurs de journaux de revanche et de journaux de haine. Et donc ils avaient fait... Vous êtes conditionné parce que vous lisez, vous êtes conditionné parce que vous regardez la télévision, vous êtes conditionné par votre nourriture, vous êtes conditionné par votre éducation. Quand vous faites votre nourriture d'un seul journal, d'une seule ligne de pensée, bien sûr, vous êtes entretenu dans la haine, et à table, vous parlez de cela, et vous avez la possibilité, vous êtes au pouvoir, vous pouvez prendre votre revanche. C'est terrible.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Henri Amoureau et nous évoquons le deuxième tome de Pour en finir avec Vichy, Les racines des passions. Nous nous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de notre émission. À tout de suite.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque ?
Sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Nous entamons la dernière partie de cette étude du livre Pour en finir avec Vichy, écrit par Henri Amoureau, Les racines des passions 1940-1941, un livre paru chez Robert Laffont. Alors passons, Henri Amoureau, en Angleterre à nouveau, allons vers ce général de Gaulle. Est-ce que de Gaulle, finalement, n'était-il pas un manichéen avant l'heure ?
Bon, il était fatalement manichéen. Sa situation faisait qu'il était fatalement manichéen. Le général de Gaulle est manichéen, bien sûr, obligatoirement, si j'ose dire, obligatoirement. Bon, je vous l'ai dit au début, dans la première émission que nous avons faite il y a quelque temps, je dis, pour obtenir le but qui s'était fixé, il ne peut pas être autre chose que manichéen. S'il accorde la moindre indulgence à Vichy, s'il lui trouve des circonstances atténuantes, alors il ne peut plus tenir le langage qu'il tient. Et il ne peut plus viser l'objectif qu'il vise.
Il y a une nuance, et vous citez les fameuses 3 questions du général de Gaulle à ses lieutenants. Faut-il exclure les relations avec Vichy ? Si Vichy devient neutre, faut-il continuer ?
Il faut les remettre en situation. C'est après le 13 décembre 40. Qu'est-ce que c'est que le 13 décembre 40 ? Après Montoire et le plateau La Balance pèse contre Pétain, si vous voulez, parce que Montoire, la poignée de main qui est devenue beaucoup plus poignée de main des années après qu'elle ne l'était, qu'on a fait attention à l'époque, mais enfin, ça choque qu'il ait rencontré Hitler, parce que Pétain, le maréchal Pétain, rencontrait cet Hitler, etc. Bon, ça choque, mais c'est le plateau de la balance remonte quand il y a le 13 décembre. Qu'est-ce que c'est que le 13 décembre ? C'est l'arrestation de Pierre Laval. Pierre Laval était chef du gouvernement, et donc, c'était lui qui entretenait les rapports avec les Allemands. Les rapports quotidiens ou hebdomadaires, enfin les rapports quotidiens, les rapports politiques avec les Allemands, c'est Laval, c'est personne d'autre dans le gouvernement. C'est pas le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Baudouin, a démissionné après Montoire, ce qui est important. Le ministre des Affaires étrangères n'est pas d'accord. Baudouin démissionne. Il va rester dans le gouvernement, un poste différent, près du maréchal Pétain d'ailleurs, et préparer d'ailleurs la rencontre de Churchill et de Rougier, enfin le voyage de Rougier en Angleterre. Mais il démissionne et c'est Laval qui prend les affaires étrangères. Donc les rapports avec l'Allemagne, c'est Laval. Et là, Pétain, en décembre 1940, demande le 13 décembre, le Conseil des ministres, et demande à ses ministres de signer une lettre de démission. Et tout le monde la signe. Alors il signe la lettre collective de démission. Et Laval, ne soupçonnant rien, il s'en est voulu de n'avoir rien soupçonné. Il s'en est voulu d'avoir été roulé dans la farine, lui qui était un homme politique depuis longtemps. Signe, et le maréchal Pétain revient en disant, voilà, j'accepte la démission de M. Laval et de M. je suis en train d'oublier le nom, qui était ministre d'instruction publique, j'accepte la démission de Laval. Et Laval tombe des nues. Mais monsieur le maréchal, qu'est-ce que vous me reprochez? Mais je vous reproche d'aller voir les Allemands, de jamais rien me dire, de ne me faire aucun rapport. Laval détestait faire des rapports. Il parlait, il expliquait, mais il faisait pas de rapport, il aimait pas ça. C'est un homme politique, c'était un homme de couloir, c'est pas d'influence, pas de rapport. Alors, et Pétain était un homme de rapport, hein. Bon. Et alors, vous faites pas de rapport, je ne sais pas ce que vous faites avec les Allemands, bref. Et non seulement il est démissionné, mais 3 heures après, il est arrêté. Alors il est arrêté, on le conduit chez lui à Châteldon, il habitait à Châteldon, il avait un château, cet homme qui était né d'une famille pauvre, avait fini par son talent et puis ses relations et aussi son travail, par avoir une situation importante, il avait un château à Châteldon. On le met en résidence surveillée dans son château, et c'est Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne, qui traversera la ligne de démarcation, escorté, attendu par une ou deux automitrailleuses, mais même pas besoin d'automitrailleuses, enfin escorté un peu par quelques soldats, quelques militaires, sa protection rapprochée, qui viendra à Vichy exiger la libération de Laval, qui sera immédiatement libéré. Et Laval va repartir avec lui en zone occupée. Et Laval va rester en zone occupée. Tout ça est fascinant. Alors c'est en fonction du 13 décembre. Parce qu'après le 13 décembre, après l'arrestation de Laval et la libération de Laval par Abetz, à Vichy, on se dit les Allemands vont envahir la zone libre. Et à ce moment-là, on dit qu'est-ce qu'on ferait? Et alors Pétain dit à Darlan, voilà, il faudra que la flotte s'en aille, qui était parce que les Anglais avaient bombardé la flotte à Merselkébir, ce qui n'était ni bien ni intelligent. Ils avaient tué 12 200 marins français. Beaucoup plus de marins français qui n'ont été tués que de marins français ont été tués par les Allemands. Bon, ils avaient attaqué les Français à Dakar. Enfin bref, de Gaulle y était. Enfin bref, tout ça faisait que la flotte se trouvait à Toulon. Il faut que la flotte parte vers l'Afrique du Nord et que le gouvernement puisse aussi partir vers l'Afrique du Nord. On craignait. Et de Gaulle savait bien soupçonner que peut-être les Allemands envahissant la zone non occupée, tout changeait. Car à ce moment-là, évidemment, avec Weygand qui se trouvait en Afrique du Nord, l'Afrique du Nord qui était française, il faut rappeler que la France avait le second empire colonial du monde, le premier étant l'empire anglais. Donc toute l'Afrique qui était en partie avec l'Afrique équatoriale qui s'était ralliée à De Gaulle, mais l'Afrique occidentale c'était pas ralliée à De Gaulle, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'était un ensemble considérable qui faisait que la Méditerranée, l'Italie était absolument chassée puisqu'elle avait fait la sottise, la folie, Mussolini avait fait la folie et la malhonnêteté de déclarer la guerre à la France et à l'Angleterre le 10 juin 1940. La Méditerranée était une mer franco-britannique et la carte de la guerre changeait à ce moment-là. Et alors de Gaulle demande non pas à ses lieutenants, mais à ceux qui, auprès de lui, représentent son comité de défense de l'Empire français, c'est-à-dire au général Catroux, qu'il avait rallié, qui était l'ancien gouverneur général de l'Indochine, au gouverneur général Éboué, qui s'était rallié avec lui, qui avait amené le Tchad, au colonel Leclerc, qui deviendra le général Leclerc, au médecin général Cissé, bref, à tous, aux 10 ou 12 personnes qui composaient son à Cassin, qui composait son comité de défense de l'Empire, dont il prenait les avis, mais qu'il ne suivait pas toujours, ou même pas souvent, enfin c'est démocratique d'avoir ce comité de défense, que faut-il faire si le gouvernement du maréchal Pétain, si le maréchal Pétain va en Afrique du Nord avec, s'il reste, s'il ne fait rien, s'il fait un petit peu quelque chose, et s'il fait la guerre, s'il reprend la guerre. C'est la troisième question qui est importante. D'abord, tous répondent à la troisième question, s'il fait la guerre. Il faut, nous sommes en 40, fin 40, janvier 41. Fin 40, janvier 41. Il faut se rallier à lui. Et le général de Gaulle aura un poste important. Nous sommes en janvier 41. Il y a eu Montoire, il y a eu les lois contre les francs-maçons, il y a eu les lois anti-juives. Il faut dire ça, il faut parler de ces choses. Je crois que c'est idiot de masquer la réalité. Je ne dis pas la vérité, la réalité. Il faut se rallier à lui. Et naturellement, il faudra que la France libre soit reconnue. Tous ces gens qui se prononçaient, je crois que presque tous avaient été condamnés à mort par contumace par Vichy, par le tribunal de Ghana. En tout cas, le général de Gaulle avait été condamné à mort, mais des autres aussi. Tous, pourquoi? Parce qu'ils savent les sentiments, et c'est notamment les sentiments de l'Algérie, notamment les sentiments de l'Algérie, musulmans compris. C'est ce pétainiste. Et quand de Gaulle va arriver en 42 en Algérie, en 43 plutôt, en 43 en Algérie, ben c'est pas en 42, c'est en 43, il n'aura pas la population avec lui. Ils étaient pétainistes, ils étaient comme ça. Alors, bon, le général de Gaulle pose cette question, et il est important de le rappeler, parce qu'on finit par l'oublier, qu'il y a une évolution.
Alors, une dernière question, peut-être, Henri Amouroux, vous terminez votre livre par la thèse du colonel Rémy, la thèse des deux cordes à l'arc, la corde Pétain et la corde de Gaulle. Est-ce que c'est parce que vous en faites également votre thèse?
Pas du tout, c'était impossible. C'était trop tard. Rémy est un homme admirable. Rémy est un des plus grands résistants français. C'est un homme, il était monarchiste. C'est un homme qui a pris des risques, a fait prendre des risques considérables. Son réseau était un réseau l'un des plus dévastés par l'occupant, où il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et qui ont été des gens admirables, qui n'ont pas fait beaucoup de politique après la guerre. Lui-même n'en a pas fait. Il a écrit des livres. Et bon, il avait écrit des livres notamment sur la ligne de démarcation, des dizaines de bouquins. Rémy est un très grand chef de la résistance, et un des fondateurs d'un des réseaux les plus importants. Et il voit les choses d'une façon un peu idéalisée. Il va un jour se trouver avec le général de Gaulle et avec le capitaine Guy, se trouver avec le général de Gaulle et faire une conversation. Le général de Gaulle a quitté le pouvoir, c'est donc après 1946, après janvier 1946, et le général de Gaulle dit, mais c'est toujours le problème. Moi j'admire, ou plutôt j'admire pas, ces gens qui écrivent 20 ans après et qui vous disent des phrases comme s'ils les avaient enregistrées sur magnétophone. Là, comme ça, et qui reconstitue. Alors, Rémy dit que le général de Gaulle avait dit qu'il aurait fallu que la France ait deux cordes, ou il faudrait que la France ait toujours deux cordes, la corde Pétain et la corde de Gaulle. Il écrit ça d'abord dans un livre sur le général de Gaulle, et il donne son texte à lire au général de Gaulle, qui corrige et qui ajoute à condition que la corde Pétain ait été au service de la France. Enfin, le général de Gaulle modifie sa phrase. Dans un hebdomadaire qui s'appelait Carrefour, et qui avait été créé par un résistant d'ailleurs, Amaury, qui est devenu ensuite patron du Parisien libéré, Rémy, qui avait retrouvé ses amours antérieure et qui était redevenu monarchiste, homme de droite, trouvant que l'épuration avait été trop sévère, reprend sa théorie des deux cordes. Et naturellement, dans le journal, elle est immédiatement exploitée par les anti-gaullistes. Et de Gaulle est furieux parce que Rémy, il assure évidemment toujours de sa sympathie, même ça, pour tout ce qu'il a fait, mais il ne veut pas que cette thèse soit accréditée. Car si cette thèse est accréditée, on ne sait pas pourquoi il y a eu un procès Pétain. Vous comprenez? Et on ne sait pas pourquoi. Alors moi, je crois évidemment, avec ma connaissance, mais elle est limitée comme toute connaissance, que c'était beaucoup trop tard. C'était possible en 1941, malgré bien des choses, c'était possible en 1941, peut-être en 1942. En 43, en 44, ce n'est plus possible. Mmh. En 44, ce n'est pas possible. Les passions sont trop exacerbées. Il y a eu trop de haine. Il y a eu trop de drames. Car il ne faut pas oublier qu'il y a eu les drames. Il y a eu la milice. Il y a eu des gens fusillés. Il y a eu des gens arrêtés parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient francs-maçons. Parce qu'ils étaient communistes. Bon, comment voulez-vous qu'après, il n'y ait pas à nouveau un esprit de revanche? Bon, c'est le coup et le contre-coup. Vous comprenez? Alors, jusqu'en 42, oui, certainement, oui, sans doute en 41, 40, 41, mais à condition, naturellement, que le maréchal Pétain se trouve en Afrique du Nord. Alors, en 42, ben, lorsque les Allemands ont envahi la zone libre, je crois qu'à ce moment-là, il n'est pas parti. On a dit, c'est parce qu'il avait peur de prendre l'avion, c'est idiot. Il avait pris l'avion avant pour aller notamment au Maroc, quand les avions étaient, les carlingues s'étaient découverts. Donc, ça tient pas. C'est pas un argument. Il y a une autre explication qui est beaucoup plus historique. Mais il aurait dû se retirer. Mmh. Faire comme le roi des Belges. Ce moment-là, dire « je ne participe », il le fait tout de suite, le roi des Belges, dire « je ne participe à rien, je ne suis plus rien, je suis prisonnier, bon, voilà. Et, enfin, on pourrait parler des heures et des heures. À un moment donné, j'ai encore 2 minutes.
Oui, je vous laisse encore 2 minutes, Henri Amouroux.
À un moment donné, et ça aurait été formidable pour son image, nous avons parlé de Montoir. Les communistes, en octobre 41, pour le jour anniversaire de Montoir, vont projeter 3 attentats. Un à Nantes, qui va réussir, puisque le feldkommandant de la ville de Nantes, qui s'appelait Hotz, sera tué par un jeune communiste, qui est accompagné de 2 camarades. Un à Rennes qui n'aura pas lieu, parce que le communiste, qui s'appelait Dandurin, qui devait tuer un officier allemand, renonce pour X raisons. Un autre à Bordeaux, qui a lieu sur l'avenue du président Roosevelt. Il y a un officier d'administration allemand qui s'appelait le commandant Reimers, qui est tué par un communiste qui s'appelait Rivière. Avec ça, vous avez les exécutions de Nantes et de Bordeaux. Les otages de Chateaubriand. On a parlé des otages sur 48 fusillés, après l'attentat de Nantes, et on a 50 à Bordeaux, n'est-ce pas? Vous avez des communistes qui sont 27 à Chateaubriand, qui sont pris à Chateaubriand, dans les camps où on les avait arrêtés, enfermés à cause du pacte germano-soviétique de 1939, et c'est Daladier qui avait été le responsable de leur arrestation, donc au gouvernement de la Troisième République, mais Pétain les avait gardés là, bien qu'ils aient proposé d'être témoins à charge contre Léon Blum au procès de Rion. Mais c'est une autre histoire. Bon, je sais qu'il y en a des histoires. Ils sont fusillés, et à ce moment-là, Pétain a l'intention de se rendre à la ligne de démarcation et de dire aux Allemands, voilà, prenez-moi comme otage, je suis le seul otage. Il ne risquait strictement rien. C'était un geste, mais qui aurait modifié toute l'image. S'il avait fait ça, il risquait rien du tout. Et il ne faut jamais demander conseil à ses conseillers. Dans certains cas, il faut demander conseil, naturellement, mais il y a des cas où ce sont, il faut laisser parler l'émotion, il faut laisser parler le mouvement du cœur, le mouvement de l'âme. Et le premier mouvement. Alors il est allé en parler, le général Lohr, qui était auprès de lui, et dont j'ai bien connu le fils, le général Lohr lui a dit, oui, monsieur le maréchal Pétain, c'est très bien, je vous accompagne, etc., on va aller se rendre prisonnier, on va dire on est otage aux Allemands, en disant, nous sommes otages, mais pas les autres, qui n'ont rien fait du tout, c'est pas eux qui ont tué le commandant de la ville de Nantes, c'est pas eux qui ont tué un officier d'administration à Bordeaux, c'est pas eux. Vous fusillez des innocents. Il va demander à ses ministres, et les ministres, naturellement, sont contre. Et il va pas. Alors qu'il avait déjà préparé ses bagages, une petite valise. Ce jour-là, il perd une occasion extraordinaire. S'il avait fait ça sans aucun risque, évidemment, il embêtait prodigieusement les Allemands. Ça s'est su, car ça s'est su. Ce n'est pas une blague. Ça s'est su, puisque les journaux suisses en ont parlé, et que la presse de Paris a été furieuse et a attaqué les conseillers de Pétain qui lui avaient proposé de faire ça. C'est-à-dire le général Lohr, Ménétrel, enfin quelques personnes. Donc, il y a comme ça des occasions historiques qui sont perdues, où on peut... être bien.
Eh bien, Henri Amoroux, c'est sur cette occasion manquée que nous allons nous quitter. En tous les cas, il y a une passion dont on ne se lassera pas, c'est la vôtre, la passion en tous les cas pour l'histoire. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Pour en finir avec Vichy, tome 2, Les racines des passions, paru aux éditions Robert Laffont. Je conseille également à nos auditeurs deux ouvrages qui nous sont parvenus. Une anthologie du traité de Versailles, vue par ses contemporains, aux éditions Alvic, donc en 1919, et chez le même éditeur, Actualité oblige, celle des Jeux Olympiques de Turin, mais cette fois il s'agit des Jeux Olympiques à Berlin en 1936. 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin, un livre de Fabrice Abgral et de François Tomaso, paru également aux éditions Alvic. Henri Amoroux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt.